Bonjour, Renaud Dourge en votre compagnie avec Benoît à la réalisation. J'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui dans ce studio Laurence Kleinberger pour « Il faut cacher les enfants » paru aux éditions Transmettre. Laurence Kleinberger, bonjour.
Bonjour.
Alors vous avez déjà écrit pas mal de livres, mais tout à fait différent de celui d'aujourd'hui. Je vais rappeler certains de vos anciens livres, si vous le permettez. Il y a eu, c'est celui par lequel je vous ai connu d'ailleurs, « Le jour où mon Alzheimer échappa aux griffes d'un nazi constipé grâce à un tueur croate à la coiffure étrange ».
Oui.
Il y a eu « J'ai pas tué Gérard, enfin je crois ». Il y a eu « Lulu dans le taxi ou les bienfaits du curcuma ». Une larme de
Rivka.
Et aujourd'hui, nous arrivons donc à « Il faut cacher les enfants ». Paru, je le rappelle, aux éditions Transmettre. Et là, ce n'est pas un roman, c'est un document, et un document de mémoire, peut-on dire.
Oui, c'est ça, c'est un recueil, je ne sais pas vraiment si on peut appeler ça un recueil de témoignages. Disons que j'ai été interrogée des gens de la famille, j'ai été interrogée ceux qui étaient encore vivants, mais il y a aussi parmi ces gens, des gens qui ont laissé des témoignages vidéo, audio, etc., de cette période... difficile.
La Deuxième Guerre mondiale.
Oui, tout à fait.
Où il fallait se cacher, surtout si on avait une étoile jaune.
Oui, c'était d'ailleurs essentiellement ceux-là qui devaient se cacher.
Et la plupart des personnes dont vous parlez, c'était les enfants, puisque ce sont ceux qui ont pu transmettre ce...
Voilà.
Mais est-ce qu'il y a eu... Est-ce que c'est un projet que vous avez depuis longtemps ou est-ce que il y a eu un événement particulier qui vous a dit qu'il faut que je le fasse?
Il y a eu plusieurs choses. Il y a eu mon précédent... livre qui était entre le roman et le récit, je ne sais pas si vous vous souvenez, Une larme de Rivka, où je parlais beaucoup de ma mère, c'était le personnage principal, et de ses parents, et notamment de sa mère, pendant la guerre, la fin qu'ils ont eue à Auschwitz, et bref. Et ça m'a plongée dans le désir de vouloir approfondir un petit peu ce qui s'est passé, de connaître un peu ces gens, d'élargir un peu cette recherche à toute la famille, tous les enfants, les cousins, etc. Voilà.
Livre d'ailleurs, toute cette famille n'est pas uniquement en France. À l'origine, il y en a un certain nombre en Pologne.
Oui.
Ensuite, qui se retrouvent, on va en parler, en Belgique.
Oui, c'est vrai.
Et déjà, les départs de Pologne, c'est déjà par le début du nazisme.
Oui, oui. Oui, en tout cas, même si ce n'était pas le nazisme, ça l'a été quand ils sont partis. Mais non, il y en a beaucoup qui sont partis dans les années 20 pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y avait beaucoup d'antisémitisme, mais aussi parce que c'était cette génération donc de gens qui sont nés à la fin du 19e siècle, début du 20e, qui étaient attirés par le modernisme, par le communisme, par des idéaux. Ils étaient portés par ça et ils en avaient... marre de vivre dans un milieu étriqué et religieux. Donc, c'est un peu ce qui est arrivé à ces 8 enfants, donc mes oncles et tantes et grands-parents qui sont retrouvés à Bruxelles.
D'ailleurs, le premier personnage où nous allons en découvrir certains, qui s'appelle David, son père s'était mis en révolte contre cette vie très religieuse.
Voilà, c'est ça. Je pense que c'était un des premiers. Et son père, en fait, il a commencé par se raser la barbe. Et son père l'a mis dehors. C'était aussi simple que ça. C'était insupportable de pas suivre la religion. Voilà.
Et vous parliez, on a évoqué très rapidement l'antisémitisme en Pologne. Mais il ne faut pas oublier que lorsque les gens sont revenus après les camps, il y a eu des massacres.
Oui.
Il y a un livre d'ailleurs, un auteur que j'avais reçu il y a une quarantaine d'années, Marc Hillel, qui avait fait un livre, Le massacre des survivants.
Oui, exactement. Oui. Je ne sais plus dans quelle ville ça s'est passé, mais il y a eu effectivement des pogroms... sur des gens qui revenaient des camps. Quoi.
Oui, tout à fait. Comme des gens, là vous parlez quelques cas, c'est pareil, leur maison a été prise.
Oui.
Y a quand même des gens qui vont virer les nouveaux locataires, mais pas partout.
Non, bien sûr.
Donc nous allons découvrir ce David, qui lui va arriver donc, en Belgique, et ses parents vont le rejoindre ensuite.
En fait, non. Alors,
c'est les parents qui...
C'est le père de David qui arrive en Belgique.
Et David naît, lui.
David naît en Belgique. Mais ce qu'ils disent, c'est qu'il a commencé à parler français le jour à 5 ans en rentrant à l'école. Parce que dans sa famille, on ne parlait que le yiddish. Et tous les frères et sœurs de Ber sont arrivés juste après, peut-être la même année, sont tous arrivés à Bruxelles à ce moment-là. En Belgique, en tout cas.
Et donc, alors on va en parler un petit peu aussi. C'est que Par les Français, oui, mais il va même falloir pour quelqu'un parler le flamand. Après.
Oui, voilà, ça c'est pendant la guerre.
Et ça doit être assez difficile comme langue, parce que oui. On entend le flamand.
c'est le néerlandais, en fait, c'est du néerlandais.
Oui, oui, tout à fait.
Et ils ont, la plupart de ces enfants qui étaient en Belgique, à Bruxelles, et qui ont été cachés dans des familles à la campagne pendant la guerre, ont été obligés d'apprendre le flamand, puisque c'était tout autour de Bruxelles, c'est la Flandre, quoi. Donc,
alors, David va être le premier à partir lorsqu'il va y avoir l'invasion, on peut dire, allemande, et ses parents le rejoindront plus tard avec leur
petite sœur. Oui, assez rapidement, en fait, parce que je crois qu'il est parti le premier, mais je crois qu'il a passé un ou deux jours seul dans la famille où il était accueilli, et ses parents, qui étaient cachés ailleurs, finalement n'ont pas pu rester parce que c'était trop risqué. Et ils sont venus dans cette maison-là, dans le grenier, pendant où ils ont passé 2 ans de leur vie enfermés dans le grenier.
Alors, il faut parler justement de ces gens qui les ont protégés, parce qu'à l'origine, c'est une voisine qui convainc sa mère de prendre le petit David.
C'est ça. Oui.
Et après, elle va dire, bon, en fin de compte, il y a aussi les parents.
Oui, oui.
C'est pas évident,
non,
surtout.
Non, c'est très, très courageux, parce que c'était très dangereux, en fait. Et c'était une toute petite maison, dans un petit village où tout le monde aurait pu les dénoncer, quoi. Donc, c'était vraiment très courageux.
Et également pour la nourriture, parce qu'il y avait des restrictions.
Voilà, c'est ça, il y avait des restrictions. Donc, c'est pour ça que David explique qu'il allait travailler dans les champs pour faire un peu d'argent, pour essayer. Il y avait le marché noir, je ne sais pas. Ça, c'était très compliqué pour ces gens qui n'avaient pas beaucoup de moyens. Enfin,
c'est pareil pour une personne qui va se retrouver dans une abbaie où ils élèvent leur propre poule.
Oui, c'est ça. Ouais, ça, c'était Maurice. Ouais.
Alors là, nous allons retrouver maintenant une autre personne qui est Fanny.
Oui.
Que vous avez rencontrée
oui,
lorsqu'elle avait 94 ans.
Oui, c'est ça. Fanny, qui est toujours là, que je salue au passage, et que je suis allée revoir pour lui donner le livre. Donc, elle, c'était... Il y a un double lien familial, parce qu'elle est devenue la femme de David. Donc, mais elle était, avant ça, une très grande amie de ma mère. Elles vivaient ensemble quand elles étaient, enfin, côte à côte. Elles allaient au cours du Yiddish ensemble. Leurs parents étaient des amis, etc. Donc Fanny, oui, elle raconte aussi le premier. C'est marrant parce qu'ils racontent tous ce premier jour de guerre à Bruxelles. Alors les garçons racontent ça comme un truc extraordinaire avec des bombes qui. Et les filles plutôt.
Elle va parler d'ailleurs d'une chose que beaucoup de réfugiés ont connue. C'est partir par un train, le train s'arrête, et bombardé, et même des enfants voient leur premier cadavre, les premiers morts.
Oui, voilà,
vie,
c'est ça. Oui, exactement. Et le traumatisme, elle dit qu'elle est toujours, elle en a toujours peur. C'est un souvenir qu'elle n'arrive pas à effacer, enfin, un des souvenirs qu'elle n'arrive pas à effacer, parce qu'il y en a eu d'autres.
Sa famille et elle-même vont arriver dans les Pyrénées.
Oui, c'est ça. En pensant aller à Paris, parce que c'est ce qu'ils voulaient, finalement, le train est arrivé pratiquement à la frontière espagnole, oui, c'est ça. Et il s'installe quelques temps dans les Pyrénées. Le père fait quelques travaux dans les champs, je crois. Bref, tout se passe à peu près bien jusqu'à ce qu'au bout de quelques mois, la police de Vichy vienne les chercher.
Il y a un fameux camp.
Oui.
Un endroit qui maintenant est connu par les estivants.
Mais voilà, exactement.
On parle de Hague, de la plage d'Hague, mais à l'époque, il y avait un camp.
Il y avait un camp où il y avait déjà depuis quelques années des Espagnols.
Ah oui, des réfugiés espagnols de la guerre d'Espagne.
Oui, oui, oui.
Mais ils vont pouvoir partir, vous allez peut-être expliquer comment, de ce camp.
Oui, alors vraiment, elle avait un oncle, un frère de sa mère qui était toujours à Bruxelles, qui était resté à Bruxelles. Elle ne sait pas comment il se débrouillait, qui avait beaucoup d'argent. C'était l'oncle, comme dans chaque famille, il y en a toujours un qui a réussi. Là, c'était celui qui avait réussi. Et sa mère lui a envoyé une lettre. Elle a réussi, je ne comprends pas. Ça paraît dingue, mais elle a réussi à lui envoyer un message lui disant qu'ils étaient enfermés à Agde. Et le frère lui a dit j'envoie quelqu'un, débrouillez-vous pour sortir, je paye un passeur, il va venir vous chercher, etc. Donc ils avaient des autorisations de sortie pour emmener les enfants
chez le dentiste, chez le docteur.
Ils ont réussi tous à sortir le même jour. Et là, il y a eu une grande un passage très terrible où ils vont d'un point à un autre avec le passeur, passent devant les Allemands. Ils réussissent à passer, mais avec de manière complètement incroyable. Ils arrivent à s'en sortir et à repartir à Bruxelles, surtout.
Voilà. Alors, à Bruxelles, il y a un mouvement dont on parle de certains mouvements de résistance, mais il y avait un mouvement qui s'appelait Résistance... Solidarité, c'était.
Oui, c'est
solidarité.
Ça. C'est sa mère, la mère de
et
Fanny
la mère,
faisait,
pa-
ouais, faisait partie du mouvement Solidarité, ce qui lui a permis d'avoir des tickets de rationnement, etc. Et assez rapidement, donc, ils envoient Fanny dans une famille, une première famille. Elle y reste un certain temps jusqu'à ce que la bonne écrive
la Gestapo, qu'elle a été renvoyée ou quelque chose comme ça.
Elle volait, elle a été prise sur le fait, elle a été renvoyée et elle s'est vengée en envoyant une lettre à la Gestapo.
Mais heureusement, ils n'étaient plus là.
Heureusement, ils l'ont su par la résistance. Bref, qu'ils sont venus chercher Fanny, ils l'ont amenée dans une autre famille très très riche. Alors là, elle avait une place, elle avait beaucoup de place. C'était chez une comtesse, je crois. Où elle a pu rester quelques semaines et enfin elle est partie. On est venu la chercher. Enfin, je vais pas raconter tout, mais c'était vraiment une épopée, quoi. C'était incroyable. Cette petite fille qui vit tout ça et dans une espèce de, avec une maturité incroyable. Voilà.
Mais on peut se poser la question que cette bonne qui a fait cette lettre de dénonciation, elle devait pas imaginer ce qui arrivait aux gens après. Je pense.
C'est ce que dit Fanny pour l'excuser. Mais bon. C'est vrai que oui, bon, elle s'est déchargée, effectivement.
Alors, nous allons parler d'un autre. Alors, ah oui, avant de parler des autres personnages de votre famille, parce que là, ce n'est pas votre famille directe. Après, on va parler un peu de votre famille directe. Mais il convient de parler de toutes ces personnes anonymes qui les ont aidées.
Oui.
Et vous dites, vous parliez d'une comtesse, il y a toutes les conditions sociales.
Oui, c'est vrai. Parce que plus tard, bon, alors là pour Fanny, il y a eu plusieurs personnes. Il y avait un capitaine de l'armée belge qui l'a aidé. Il y avait mais en ce qui concerne d'autres membres de la famille, il y a la concierge qui a sauvé mon père. Enfin, ça c'est plus tard que je le raconte, en les prévenant qu'il allait y avoir une rafle et qu'il fallait, elle leur a donné là une clé d'un autre appartement, rue d'Audeville.
J'en parle d'autant plus que j'ai travaillé rue d'Audeville à l'époque.
Ouais, voilà. Et donc qui les a cachés dans un autre appartement, puis dans la cave, bref.
Et il y a un autre personnage que nous allons un petit peu découvrir. Il y a un parent qui va partir en Australie, qui va fabriquer des Bermudas au début.
Oui, c'est ça. Mais c'est ce fameux oncle de Fanny qui les a sauvés, en fait, l'oncle très riche, qui après-guerre ne supporte plus de rester en Europe et part refaire sa vie en Australie. Ouais.
Nous allons laisser passer un communiqué, si vous le voulez bien.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Je rappelle que je reçois aujourd'hui Laurence Kleinberger pour Il faut cacher les enfants, paru aux éditions Transmettre. Oui, nous disions donc que ce parent va arriver là-bas, il va faire des Bermudas au début, ce qui est assez amusant.
Oui, c'est incroyable. Il a lancé la mode, je crois.
Peut-être, oui. Et vous aviez parlé donc de... Ah oui, il y a aussi une partie de la famille Maurice, entre autres.
Oui.
Ils vont se retrouver au début en Bretagne.
Oui.
Et c'est pareil. Alors en Bretagne, au début, ça se passe bien.
Oui.
Et après, les gamins sont accueillis à l'école à coups de cailloux.
Oui, à coups de cailloux, quand le roi des Belges a
abdiqué.
Et ce qui est incroyable, c'est que oui, il semblerait, d'après ce qu'il dit, que ça a été un peu partout, pareil pour tous les Belges qui étaient cachés... Qui était venu en France pour se protéger.
Au début de la guerre, c'est pareil. Les magasins italiens à Paris ont été pillés. Les gens qui étaient là n'étaient absolument pas...
Mais oui, c'est ça.
Souvent, ils avaient même fui Mussolini.
Mais oui, bien sûr, oui.
Donc, il va vouloir, ce cousin, c'est pareil, lui s'engager dans la Légion, mais il va être refusé.
Oui, c'est son père. En fait, Maurice, donc, était un enfant à cette époque-là. Son père, dès qu'ils arrivent, il décide d'aller, donc, de partir en France... pour pouvoir s'engager dans la Légion. Parce que le problème en Belgique, et je pense qu'en France c'était un peu la même chose, c'est qu'à partir du moment où la guerre a été déclarée, les juifs apatrides, qui voulaient vraiment être français, etc., étaient les seuls. Les hommes ne partaient pas à la guerre. Et eux voulaient y aller. Ils se sentaient très mal à l'aise de rester à la maison vis-à-vis des autres. Et donc ils sont allés en France. Et dès qu'ils ont passé la frontière, le père de Maurice... A essayé de s'engager dans la Légion, mais il a été refusé. Voilà, voilà.
Alors, ils vont quitter la Bretagne, ils vont se retrouver en Corrèze. C'est vraiment un tour de France, on peut dire.
Oui, ouais, tout à fait. Ouais.
Et comment ça se passe là-bas en Corrèze?
Ça se passe assez bien, je crois. Ça se passe assez bien jusqu'à ce qu'il y ait cette loi qui passe, qui interdit aux... Enfin, qui dit à tous les étrangers qui sont là depuis moins d'un certain nombre d'années, qui sont en France depuis moins d'un certain nombre d'années, et juifs, d'aller se faire
inscrire
sur la liste. Ouais. Donc le père de Maurice va quémander auprès de, du père d'un, d'un ami à lui qu'il le prenne dans son... qu'au moins il le nomme comme un de ses employés, mais le type refuse. Donc
alors qu'il est lui-même juif.
Oui,
il
oui,
dit qu'il faut
ça.
Mieux s'occuper
ouais,
des
ouais.
juifs français que des juifs
ouais,
étrangers.
C'est ça.
C'est quand même assez
ah, oui,
révoltant.
Il y a de tout, de tous les côtés.
Partout,
hein,
dans tous
ouais.
les pays, mmh. malheureusement. Quoi.
Ouais.
Et il va y avoir malheureusement la déportation.
Oui.
Et...
Donc c'est un voyage sans retour, hein, évidemment. Et Maurice se retrouve seul avec sa mère. Et là, encore une fois... Ils partent, ils essayent d'aller se cacher chez un frère de sa mère. Donc, c'est dans cette branche de la famille, c'est le frère qui a réussi. C'est donc Moshe qui est dans le coin, à l'Arche. Et ils ne restent pas longtemps. À un moment donné, la mère de Maurice va travailler dans une autre maison et envoie... confie Maurice à l'UGIF. Alors l'UGIF,
oui, c'est en général,
voilà. Ouais, des Juifs de France qui travaillaient quand même un petit peu avec les Allemands. Donc c'était pas très sûr, quoi.
Bien sûr. Et il va y avoir la ville de Grenoble parce que ce sont les Italiens qui occupent Grenoble
oui.
et on présume qu'ils sont moins antisémites.
Ouais.
Et ils l'ont été à certains temps
oui,
jusqu'à
oui,
temps
vrai.
Que Mussolini décide
voilà.
ouais. de faire aussi une politique antisémite
ouais, c'est
d'ailleurs.
Ça. Donc il y a un moment où ils vont à Grenoble et où lui dit qu'il a une sensation de liberté, les gens parlent yiddish dans la rue, c'est pour lui, c'est comme s'il arrivait dans la lumière, quoi. Mais ça n'a pas duré très longtemps, effectivement.
Ben, ça a été le cas à Nice aussi, je crois
oui,
qu'il y a beaucoup de
Juifs
qui sont réfugiés
ouais.
à Nice et mmh. qui étaient dans la même situation.
Ouais.
La mère va être arrêtée, mais on peut dire par chance, elle va se retrouver hospitalisée.
Oui, tout à fait. Elle se retrouve hospitalisée et il y a un médecin... alors. Un des chirurgiens qui accepte de l'opérer, je trouve ça très, très ambivalent. Il accepte de l'opérer pour la sauver, hein, pour qu'elle puisse rester... mais il lui fait une hystérectomie, ce que je trouve incroyable.
Oui.
Il aurait pu lui faire une appendicectomie. Bon, c'est très, très...
C'est peut-être pour que ce soit plus spectaculaire.
Peut-être, ouais.
Alors là, on va quand même un peu parler, parce qu'on n'a pas eu le temps de le faire encore, de votre famille paternelle.
Mm.
Votre père, bah, vous n'avez pas pu malheureusement l'enregistrer, puisqu'il est décédé,
voilà.
Vous aviez une douzaine d'années.
Oui, c'est ça, j'étais adolescente, en fait, quand il est mort. Mais je me suis rappelée de choses dont il m'a parlé, et j'en ai parlé à mon cousin, qui m'a dit que son frère, donc mon oncle, le frère de mon père, avait participé à
C'est celui qui s'appelait Edgar.
Oui, qui s'appelait Edgar, avait participé à tout ce travail qu'a fait Spielberg après son film
oui,
La liste de Schindler. Voilà.
La liste de Schindler.
Ouais. Donc, il m'a envoyé toute une bande vidéo.
Et donc, vous avez pu...
Edgar. Ouais, j'ai tout trouvé.
Cela,
tout trouvé voilà.
cela a permis donc reconstituer un petit peu
voilà.
ce parcours.
Mmh.
Nous allons continuer un petit peu. Donc, alors, oui, bah, votre père, bah, on peut en parler, lui, il était né en Galicie.
Oui.
Alors que les parents, pourtant, étaient déjà...
oui, c'est fou. Ouais.
Pourquoi être retourné là-bas?
Ouais, ça, c'est un truc... Je pense que sa mère voulait être près de sa mère à elle pour accoucher de son premier enfant. Donc, elle est partie en Pologne pour accoucher de mon père.
Alors, quelques chiffres. Rappelons qu'en Pologne, avant la guerre, il y avait 3,3 millions de Juifs et 2,9 millions sont disparus.
Oui.
Et ça, on oublie. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai cité volontairement le livre de Marc Hillel, Le massacre des
oui,
survivants.
Oui, tout à fait.
Vous parlez aussi d'un personnage que tout le monde connaît, c'est Charles Denner.
Oui.
Le comédien Charles Denner. Le hasard fait que votre père
Mais
et
oui.
lui sont enterrés, je crois, dans le même cimetière.
Oui. Alors, ce n'est pas vraiment le hasard, parce que c'est... Enfin, si, c'est un peu le hasard, mais c'est le cimetière juif parisien.
Oui.
C'est un des cimetières juifs parisiens. Mais surtout, le hasard fait qu'ils sont nés dans la même ville, quoi. Ils sont nés dans la même ville, à Tarnów, en Pologne, en Galicie. Et voilà. Et Charles Denner a été caché à l'Arche comme toute une autre partie de ma famille.
Et rappelons aussi qu'il a été un résistant.
Il a été un grand résistant. Ouais.
Parce qu'on le connaît
ouais,
comme
tout
comédien,
à fait.
Mais on
ouais,
oublie
ouais.
Que
Absolument.
Qu'il
ouais.
a participé. Et ses parents sont morts dans les camps, je crois.
Oui, je crois. Ouais.
Oui. Donc, nous avons parlé de cette rue d'Hauteville. Et il y a un nom qui m'a amusé un petit peu, c'est le nom de la concierge.
Oui.
Est-ce que c'est vraiment son nom, Madame Vignol?
Ouais,
parce qu'en argot, on dit une vignole pour parler.
Oui,
d'une...
c'est vrai.
C'est pour
mais
ça que je
pense
me suis dit...
que c'était vraiment son nom. Parce que d'abord, mes...
Bon, il y a bien des bouchers qui s'appellent Boucher ou des
oui,
boulangers qui s'appellent
vrai.
Boulanger.
Alors, peut-être qu'ils étaient Vignol de mère en fille, mais je ne crois pas. Je pense vraiment parce que ma grand-mère parlait mal le français, elle ne parlait pas l'argot parisien et elle l'appelait par son nom, quoi, Madame Vignol.
Nous allons arriver maintenant pratiquement au terme de cette émission. Il nous reste 3 petites minutes. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'au fil du temps, bon, dirons-nous, ce drame s'estompe un petit peu, ça se banalise, dirais-je, ou pas ?
Oui, bah c'est un peu pour ça, je pense, que j'ai essayé de retrouver tous ces souvenirs. Je ne sais pas s'il se banalise ou ça devient comme un monument. Ça devient quelque chose de monumental, un truc historique.
Monolithique.
C'est ça. Et là, en faisant parler les enfants, qui, étonnamment, m'ont parlé comme des enfants, même quand ils m'ont raconté de leur âge adulte, j'ai l'impression que ça garde quelque chose d'essentiel, quoi. Voilà, c'est leur.
On peut appeler ça un devoir de mémoire. C'est un terme un peu galvaudé, mais là, c'est quand même le cas.
Peut-être, oui.
Et n'oublions pas non plus donc, de parler de ces personnes qu'on appelle les justes.
Juste, oui, tout à fait. Là, il y en a beaucoup dans mon livre. Ouais.
Et peut-être, vous allez peut-être faire des salons du livre. Sans doute, allez-vous rencontrer des personnes qui ont. Des descendants de personnes ayant vécu cette période.
Sans doute, oui.
Et ça sera peut-être, pas l'occasion de faire un autre livre, mais d'enrichir ce livre. Parce que c'est effectivement, tant qu'il y a des gens pour garder la mémoire. On disait autrefois, à une époque, il y avait un proverbe que quand un vieillard disparaît, c'est une bibliothèque qui disparaît. C'est un petit peu pareil pour cette période, parce qu'il ne doit plus rester grand monde, même dans votre propre famille. Vous parler de cette tante.
Fanny. Puis il reste encore la juste de ma famille, la grande juste, Mariette, qui a sauvé ma mère, qui va avoir 103 ans là en avril.
Alors j'ai oublié de préciser qu'en fin de livre, il y a tout un cahier photographique très riche,
c'est vrai.
Ce qui permet vraiment de visualiser tous les personnages dont vous parlez au fil des pages de cet ouvrage. Alors cet ouvrage qui est quand même assez dense, il fait 230 pages. Et je rappelle le titre, Il faut cacher les enfants, l'auteur, avec un point d'exclamation, d'ailleurs, ne l'oublions pas, Laurence Kleinberger. C'est un ouvrage qui vaut 25 euros, qui est donc accessible vraiment à tout le monde. Et pourquoi pas, comme font certaines personnes qui ont vécu cette époque, aller en parler dans les écoles.
Oui, ça j'aimerais bien.
Parce qu'il y a des personnes, encore des anciens résistants.
Oui, c'est vrai.
Et ils sont malheureusement de moins en moins nombreux.
Oui.
Bien, je vous remercie, Laurence Kleinberger.
Merci
pour terminer,
en
musique, j'ai choisi tout simplement... On a parlé de la Pologne, c'est quand même un sujet triste. Tristesse de Chopin, un extrait bien sûr. Je pense que ça cadre très bien avec cet ouvrage. Et je pense qu'on se reverra pour un ouvrage peut-être dans la veine des précédents.
D'accord.
Qui sait ?
Oui.
Merci à vous.
Merci.